Démondialisation. Ce mot qui est l'antonyme de notre monde, ce mot qui nous fait peur à nous, nous les habitués de la glorieuse mondialisation, de la prometteuse croissance et finalement nous les addicts à tout diviser. En mondialisant, nous avons divisé le travail, les chaînes de production, mais aussi nos cultures, nos voyages, nos familles même parfois. Bref, nous avons appris à vivre en dépendance, non pardon, en interdépendance. Bienvenue dans le Géopolitique, au programme du jour, l'analyse d'un monde démondialisé. Je te vois, Antoine, derrière ton micro, tu fais la grimace, tu te morfonds à l'idée d'un monde démondialisé, mais ne t'inquiète pas, je te comprends, voilà une perspective bien intrigante. Là où la mondialisation signifie une ouverture presque démesurée à l'international, la démondialisation peut appeler à un repli vers soi. On pense alors à un retrait du commerce international, jusqu'ici, dans un contexte d'urgence climatique, tout va bien. Mais un repli sur soi, c'est surtout un recul du multilatéralisme et donc d'une coopération internationale. Or, nos enjeux contemporains ont besoin nécessairement d'une coopération internationale. La résolution de la guerre en Ukraine, la gestion d'une Chine véhémente ou bien cette même crise climatique sont des défis à surmonter à plusieurs. Ainsi se pose une question simple. Est-ce que la démondialisation, c'est le retour vers le pire ? Si la Chine et les autres pays les plus émergents souhaitent renverser la table de la mondialisation, c'est pour des raisons économiques qui sous-tendent des raisons géopolitiques. Nous sommes dans un contexte de révolution technologique emmenée par l'intelligence artificielle. Le vainqueur géopolitique sera celui qui dominera le secteur de l'innovation et le contrôle de ces nouvelles technologies. Ainsi, ce que nous appelons démondialisation est en fait un processus purement stratégique. Il s'agit en fait d'un phénomène global de retour vers le chacun pour soi. Alors notre nouveau modèle de mondialisation serait bien moins fragmenté, de par de nouvelles pratiques visant à supporter les nouveaux défis stratégiques. La Chine fait le choix de stopper l'organisation horizontale des entreprises, étalée sur tout le globe, et parie sur une organisation verticale où tout est 100% chinois, se promettant ainsi, si cela fonctionne, un quasi-monopole. Ces nouvelles rivalités se cristallisent évidemment autour de produits essentiels pour l'avenir, comme les batteries des voitures électriques ou les panneaux solaires, comme nous en parlions déjà lors de notre épisode intitulé « Inde, grandir ou périr ». Pour autant, nous avons déjà un exemple concret à vous donner, celui de la 5G. Rappelez-vous, les États-Unis ont fait le choix de bannir les antennes chinoises, et la Chine n'utilise exclusivement que les antennes de son champion national Huawei. Voilà, vous avez l'illustration parfaite de ce que nous vous racontons, un processus de démondialisation, de ralentissement de la mondialisation tout du moins, exacerbé sur des points technologiques sous-tendant des enjeux stratégiques majeurs. Et si la démondialisation était forcée ? Et s'il ne s'agissait pas d'un simple ralentissement des échanges internationaux, mais plutôt de la fin de l'abondance ? Adieu la mondialisation synonyme d'exploitation, bienvenue à la rareté, fille de la démondialisation.
Bienvenue dans la Grande Réorientation, une chronique du géopolitique menée avec brio par Lamia. 5 minutes de décryptage pour comprendre, sans détour, la géopolitique du Grand Moyen-Orient.
Oui, maintenant, je vais commencer par situer ce territoire. Donc, il est situé sur la côte ouest africaine, entre la Mauritanie et le Maroc, et il a une superficie qui est équivalente, que l'on peut comparer en tout cas à celle du Maroc. Et il s'y déroule en fait un conflit qui est plus ou moins médiatisé, puisqu'il est surtout enlisé, étant donné qu'il date en fait de l'époque coloniale. On en a parfois vent par l'intermédiaire de crises diplomatiques avec des pays qui sont systématiquement impliqués dans ces crises, notamment le Maroc. Récemment, vous avez peut-être entendu le rappel de l'ambassadeur du Maroc en Tunisie lors de l'accueil par Kais Saied, qui est donc le président tunisien, d'un individu qui s'appelle Brahim Ghali et qui est le chef du clan Polisario, sur lequel on va revenir justement tout au long de cet épisode. Ça commence au tout début du XXe siècle avec le protectorat marocain qui est mis en place par la France en 1912. Mais il n'y a pas que la France qui a colonisé le Maroc, il y a également l'Espagne, puisqu'en fait, l'Espagne possédait une partie du nord du Maroc, ce qu'on appelle la province du Rif, mais aussi toute une partie sud, là où justement le Sahara occidental est situé aujourd'hui. Le Sahara, que ce soit à l'époque coloniale ou aujourd'hui, c'est très majoritairement des dunes de sable. À un certain moment, en fait, l'Espagne va quitter ses possessions. Et puis là, en fait, la question du Sahara espagnol, ce qu'on appelle le Sahara espagnol, l'actuel Sahara occidental, va se poser. La question, en l'occurrence, de savoir à qui revient cette partie du Maroc. Donc la Mauritanie, qui est le pays situé en dessous de cette partie du Sahara espagnol, revendique la partie méridionale en tant que pays voisin. Le Maroc également va revendiquer une partie donc, de ce territoire au nom d'allégeance que des chefs tribaux sahraouis faisaient à leur sultan marocain. Et donc c'est ça qui va poser en fait problème, puisque les sahraouis ne sont pas d'accord, il y a bien des populations qui vivent à cet endroit-là et qui sont représentées en fait à ce moment-là par le Front Polisario. Front Polisario qui est une abréviation de Front Populaire pour la Libération de la Saguia El Hamra et du Rio de Oro, et qui est fondée en 1973 pour l'indépendance du territoire du Sahara occidental. Ce qui va se passer, c'est que le Maroc ne va pas lâcher l'affaire et qu'en 75, donc quelques années après cette création, on a ce qu'on appelle la marche verte qui va être menée du Maroc vers le Sahara occidental, qui va permettre au Maroc en fait de s'approprier les deux tiers nord du territoire et puis le tiers restant va aller à la Mauritanie. Le Front Polisario dans cette histoire, il est complètement laissé de côté, donc on a une guerre qui va commencer en 1975 et qui ne va s'arrêter qu'en 1991 via la proclamation par le Front Polisario d'une république arabe sahraoui et démocratique. Et donc cette guerre, elle va entraîner déplacements de population et ces déplacements nous permettent d'amorcer l'arrivée d'un nouvel acteur dans ce conflit qui est l'Algérie, puisque l'Algérie va donc accueillir ces déplacements de population en grande majorité et en fait elle va également soutenir militairement le Front Polisario, tout comme la Libye d'ailleurs, mais également l'URSS, puisqu'à ce moment-là, on est dans un contexte de guerre froide, et donc l'URSS va armer le Front Polisario. Donc vous le savez, l'Algérie était historiquement liée à l'URSS, et à l'inverse, le Maroc est armé par les États-Unis. Assez rapidement, la Mauritanie, elle est mise hors jeu, mais le Maroc va conforter sa position via la création d'un mur de 2700 km financé par Washington. Et donc à ce moment-là, on a 80% du Sahara occidental qui est contrôlé par le Maroc, et seulement 20% qui reste au Front Polisario. Aujourd'hui, le conflit s'est complètement enlisé. On a toujours d'importantes possessions marocaines sur le Sahara occidental et puis une sorte d'appréhension en fait à qualifier la souveraineté de ce territoire qui n'est pas un pays mais qui est quand même revendiqué par des groupements indépendantistes. Il y a eu un cessez-le-feu donc après cette guerre qui a été accepté par les belligérants sous l'égide de l'ONU avec l'envoi par l'ONU donc d'une mission de pacification et de maintien de la paix qui s'appelle la mission MINURSO, en sachant que le but à long terme de cette mission c'était de mettre en place un référendum d'autodétermination. Concrètement, il fallait demander à la population si elle voulait être rattachée à la souveraineté marocaine ou alors si elle souhaitait l'indépendance sous l'égide du Front Polisario. Ce référendum, il était prévu pour 1992 et il n'a jamais eu lieu pour différentes raisons et notamment en fait hein, pour l'inquiétude du Maroc quant à savoir si les locaux sont réellement pour le rattachement à leur couronne ou alors pour un État indépendant. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à une situation de blocage qui va également se lier à des intérêts stratégiques assez importants puisque sur ce territoire, on a des gisements de phosphate et le littoral est très riche en ressources halieutiques. Et puis, le Maroc a avancé depuis 1992 qu'il voulait bien d'une autonomie de ce Sahara occidental en le gardant sous contrôle. Évidemment, le Polisario n'en veut pas, il veut une indépendance totale. L'Algérie, par contre, soutient le Front Polisario, mais on se doute bien que derrière, il y a également des intérêts stratégiques pour cette grande façade maritime. Et puis, les enjeux nationalistes sont également au cœur du problème, puisqu'en fait, c'est une question qui fait à la fois consensus au Maroc et en Algérie, mais dans deux dimensions complètement opposées, puisque une grande partie de la population marocaine pense que le Sahara occidental leur revient, tout comme une écrasante partie de la population algérienne pense que cette partie du territoire a droit à son indépendance avec des liens avec l'Algérie. You say you wanna be a star.
But the city is so dense and low. On a des tentatives de modernisation de la TCE, mais cela ne se solde pas forcément par des succès avec des pays européens qui annoncent un possible retrait de celle-ci en 2022, comme ce fut le cas de l'Allemagne, de la France, de la Pologne, de l'Espagne ou encore du Luxembourg. On a en parallèle le développement de relations plus profondes entre Pékin et Moscou, selon d'autres modalités que celles orchestrées par la TCE. On observe d'autres directives qui se doivent d'être ajoutées, garder le libéralisme de la charte tout en intégrant possiblement la Chine. Il faut aussi prendre en compte les nouveaux enjeux que sont par exemple l'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels par les États-Unis. On a par ailleurs des impératifs climatiques qui se greffent. On voit par conséquent deux choses, à la fois la remise en cause du modèle libéral, de gestion du marché pétrolier antérieur au conflit russe, mais aussi la marginalisation de la prise en compte de la protection de l'environnement. Cette marginalisation de la question environnementale n'est cependant pas limitée au secteur pétrolier, puisque la situation est similaire dans le secteur financier. On a en effet un monde de plus en plus financiarisé, comme le montre le rapport Financial Stability Board, selon lequel la taille de la sphère financière aurait doublé depuis 2007-2008. Le système financier des États-Unis totalise 135 000 milliards de dollars actifs, c'est-à-dire 6 fois le PIB du pays. Dans la zone euro, le système financier compte 110 000 milliards de dollars actifs, soit à peu près 10 fois le PIB de la zone européenne. En Chine, le système financier, c'est 77 400 milliards de dollars actifs, ce qui représente une multiplication par 7 en comparaison avec les chiffres mesurés quelques années auparavant. On a dans tout cela une croissance de l'intermédiation bancaire, et c'est une nouvelle fois la Chine qui est la grande gagnante, avec une exploitation du total des actifs de banque. De façon générale, cette expansion de la financiarisation s'observe partout, cependant, elle n'a pas répondu aux besoins de transformation de l'économie que représente, par exemple, la transition écologique qui est sous-financée. Cet approfondissement de la financiarisation s'opère dans un contexte de moindre mondialisation avec des tensions géopolitiques. On a par ailleurs un rôle accru de la puissance publique. Néanmoins, les dépenses relatives à une transition juste et équitable sont très faiblement prises en compte par rapport au secteur de l'innovation technologique. Les flux financiers sont loin d'être orientés vers des financements bas carbone. Inspiration de cet épisode, le dernier volume de la revue internationale stratégique, publié de l'IRIS, numéro 132, avec différents articles qui sont disponibles en description. You say you wanna be a star.
Le poisson, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un enjeu quand même.